RMC, M comme Maïtena, Maïtena Virabin.
Salut à vous tous, je suis ravie de vous retrouver, donc tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, un aventurier qui semble vivre sur une autre planète que la nôtre, et pourtant, si vous rêvez de partir, de ralentir le temps, de gagner votre vie à la perdre, il faut que vous rencontriez ce garçon. Il s'appelle Christophe Cousin, il sera là à 15h45. Mais d'abord, le truc qui rend fou, la voiture. C'est aujourd'hui que se prennent à Matignon, sous la houlette d'Edouard Philippe, des décisions qui fâchent. Depuis 3 ans, le nombre de morts sur la route augmente. Le Premier ministre sait ce qu'il faut faire, comme nous tous, mais va-t-il le faire ? Quitte à être impopulaire, incroyable suspense pour un sujet qui, je vous redis, rend fou. Il s'agit de sauver des vies quand même. Jérôme et moi attendons vos appels au 3216 et sur Twitter, hashtag M quand même.
RMC, M comme Maïtena.
Moins de 3000 morts par an sur les routes de France, c'était l'engagement de Nicolas Sarkozy il y a 10 ans. On est toujours à plus de 3400.
En 1972, plus de 18 000 personnes sont mortes sur les routes.
À partir de 2014, on a eu une remontée des accidents. Donc le nouveau gouvernement, il est obligé de prendre des mesures.
Une baisse de 10 km/h. Le comité interministériel devrait aussi aborder la question de l'alcool au volant, à l'origine de 1 accident mortel sur 3. L'éthylotest anti-démarrage est une piste de travail, mais pour le moment, les expérimentations ne sont pas probantes.
Maïtena Virabin.
Et je suis en compagnie de 2 avocats pour parcourir ce sujet avec vous, bien entendu, au 3216. On attend vos appels. Maître Jeanne Collard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée dans les affaires d'accidents de la route. La vitesse qui descend à 80 km/h, ça sauve des vies ?
La vitesse plus basse sauve des vies. Je suis par contre pas du tout persuadée que prendre cette mesure aujourd'hui contribuera à sauver des vies. Donc
pourquoi ?
Parce que si vous voulez, aujourd'hui, les accidents arrivent parce que la vitesse, parce que 90 km/h est déjà pas respectée. Ils arrivent en règle générale à 110, 120 ou dans des infrastructures particulières où il faudrait rouler à 50.
Donc vous dites, qu'importe les décisions, ce qu'il faudrait, c'est déjà qu'on les applique.
C'est qu'on les applique, mais qu'on mette des contrôles en place pour qu'elles soient appliquées, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps.
Éric de Comment, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes avocat, je vous vois avec tout, vous faites rire. Vous êtes avec tous les articles qui sont parus dans la presse. Vous avez sorti votre calculette, c'était pour calculer quoi?
C'était pour vous démontrer l'inanité de cette mesure. J'espérais un débat houleux, bien que respectueux, bien entendu.
Oui.
Puis je suis en train de me rendre compte que finalement, on serait plutôt d'accord sur le fait que ça va rigoureusement servir à rien, sauf à se faire plaisir.
C'est un outil supplémentaire de répression et puis c'est tout?
Voilà, exactement. Voyez qu'est-ce, c'est pas plus compliqué que ça. Il va y avoir, bien entendu, beaucoup plus de verbalisation. Je vais vous donner un exemple intéressant. Vous vous rappelez, il y a 3-4 ans, on roulait encore à 80 km/h sur le périphérique parisien.
Oui.
Je m'excuse pour les auditeurs de province, mais ça peut se passer dans d'autres villes. Et puis, on nous a dit, on va diminuer la vitesse à 70 km/h. Tiens, c'est amusant, là aussi, on descend de 10 km/h et on va en retirer des bénéfices exceptionnels, notamment en matière de sécurité routière. Entre 2013 et 2014, on passe de 1 mort à 7 morts. Vous voyez, bon, c'est pas des grands chiffres, c'est difficile à exploiter statistiquement, mais déjà, la preuve n'est pas faite que c'est efficace d'un point de vue sécurité routière.
Ça dépend si ça a été dans un accident ou dans 7 accidents.
Enfin, bon, ça peut pas être qu'un seul accident, normalement, mais ou alors c'est un autocar. C'est un autobus. Mais surtout, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que vous avez eu en 2013, avec les radars qu'il y a sur le périphérique parisien, 180 000 verbalisations.
Oui.
D'accord. En 2014, vous savez à combien on est passé ? 460 000.
Donc vous nous dites pompe à fric, hein, c'est ça. Xavier, qui est avec nous au 3216, nous dit exactement la même chose. Xavier, qui est gérant d'auto-école, bonjour.
Oui, bonjour Maïtena.
Bienvenue, ça va ?
Ça va et vous, meilleurs vœux pour 2018.
À vous aussi, Xavier, évidemment, partagez avec tous ceux qui vous entourent. Vous pensez, vous aussi, que c'est juste une histoire de gros sous ?
Complètement. Puisque, déjà, alors moi, je reviendrai sur ce qu'a dit la dame. Oui, il y a des gens qui s'en excitent du test, mais la vitesse pratiquée en moyenne sur le réseau secondaire, c'est 84 km/h.
Chiffre
de la sécurité routière.
Oui, absolument.
Donc
c'est moi, déjà ce qu'on propose d'appliquer.
Voilà, ce qu'on est en dessous. Donc, ça va être une mesure epsilonienne pour la sécurité routière. C'est juste pour effectivement, au moment donné où quelqu'un n'aura pas le nez sur son compteur, de faire un petit excès de vitesse comme il y a beaucoup, de 1, 2, 3 km heure, et de prendre quelques sous.
Donc, quand ils sont à 84, exemple, comme tout le monde l'est aujourd'hui, maintenant, ce sera une amende, quoi. Voilà.
Exactement. Et, même, regardez-moi, quand je conduis avec mes élèves en ville, c'est censé être limité à 50, on fait une moyenne de 35 km heure.
Oui.
Donc on est toujours en dessous de la vitesse, mais il y a parfois, vous n'avez pas toujours le nez sur le compteur. Vous pouvez être dans une phase où vous avez besoin d'accélérer parce que vous êtes dans une situation de danger et autres. Il y a toujours un prétexte qui fait que maintenant, on sait que de baisser de 90 à 80, ça va économiser 400 vies à peu près.
Oui.
Ça fait 1%. Je suis sur la route, donc on peut pas dire.
Quand c'est très important, ça, Xavier, 1%, c'est énorme.
Oui, mais c'est pas la mesure. C'est pas
Personne ne le dit, hein, ni le gouvernement, ni personne d'autre. Hein. Personne ne dit c'est la mesure. C'est une mesure, il y en a d'autres.
Oui, mais c'est quand même bien celle qu'on vous vend aujourd'hui pour vous dire oui, c'est pour lutter contre la mortalité sur les routes.
Alors, si on veut être tout à fait honnête, Xavier, c'est celle dont nous parlons, les médias, parce qu'on sait que c'est une qui va sortir, mais il y en a d'autres. Et on rappelle que c'est en ce moment à Matignon, on aura les résultats en fin de journée. Voilà, peut-être qu'il y aura des surprises. On peut pas présager de ce qui va se dire véritablement. Enfin, on le fait, mais
et
peut-être
moi,
qu'on le fait de manière maladie.
Je suis censé apprendre à mes élèves à rouler à 80 km/h sur le réseau secondaire.
Oui.
Pour être dit, qu'est-ce que je fais? Je vais leur apprendre à rouler à 70? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter.
Alors,
je veux dire, il y a un seuil, on voit toujours un seuil, hein, c'est comme pour l'impôt, où les gens deviennent réfractaires aux réformes et aux mesures.
Vous me le servez sur un plateau, là, Xavier, parce que c'est quand même un sujet. Moi, je vois ça. Bon, alors, pour tout vous dire, j'ai pas le permis de conduire. Comme ça, je vous regarde un petit peu avec des yeux. Bon, c'est des trucs d'alien, hein. À partir du moment où sa vie est en danger. Par ailleurs, et je le précise, je roule en deux roues et j'ai failli me planter hier et c'était de ma faute. Je suis pas non plus hors sol complètement. Il s'agit quand même de sauver des vies. Il s'agit d'être en sécurité. C'est quand même pas rien, Maître Collard. Il y a une hystérie autour de ce sujet qui est dingue.
Mais vous savez ce que ça prouve, cette hystérie? Enfin, ce qu'on entend là, est-ce que vous allez entendre ce qu'on va entendre pendant 30 minutes? Ça prouve que le travail qu'on devait faire n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, sauf Jacques Chirac qui l'a fait à une époque et qui a gagné ce combat.
Oui, qui avait inversé.
On n'a jamais essayé de créer une adhésion sociale aux mesures sur la sécurité routière. Mmh. Alors aujourd'hui, quand vous entendez que baisser la vitesse, interdire le téléphone volant, c'est pour prendre du fric, ça prouve bien qu'en fait, les Français n'ont absolument rien compris au problème.
Ou en tout cas, qu'ils le vivent comme une atteinte à leur liberté.
Et qu'ils ne sont pas prêts à modifier ce comportement. Et ça, c'est grave, parce que les mesures, on s'en moque. Pourquoi on a eu une augmentation importante ces dernières années? Parce que les comportements se sont relâchés.
Alors, on va le dire, ça fait trois ans que les chiffres réaugmentent.
Mais parce que pourquoi les comportements se relâchent? Parce qu'il n'y a pas d'adhésion à cette politique.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense, Éric Decomont, que vous êtes d'accord avec ça.
Eh ben, je suis d'accord.
C'est pas réfléchi ensemble.
D'accord, oui. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de succès à long terme permettant de rejoindre le peloton des autres élèves européens. On est à la traîne.
Parce qu'on est bien d'accord, vous et moi, tout le monde ici souhaite qu'il n'y ait plus de morts sur la route. Il
n'y
a pas le camp
évidemment,
de ceux qui veulent rouler à toute vitesse pour tuer des gens.
J'ai jamais entendu personne dire le contraire.
Pas,
Je constate effectivement qu'on est à la traîne par rapport au reste des pays européens.
Oui.
On est même très en retard par rapport à certains pays vertueux, comme par exemple la Grande-Bretagne.
Oui.
Et le vrai problème, c'est effectivement, je suis totalement d'accord, c'est l'adhésion des automobilistes, des usagers de la route en général, à une politique qu'ils comprennent et qu'ils respectent. Précisément, le drame, si vous voulez, c'est que on a fait des fixations depuis des années, notamment uniquement sur la vitesse, et vous savez depuis qu'il y a les radars automatiques, depuis 2003, les Français, ils ont une réaction qui consiste à dire, ah bon, j'ai été pris à 52 au lieu de 50, il faut que je paye une amende, et on m'enlève un point pour 52 au lieu de 50, c'est-à-dire le trait de l'aiguille sur le compteur.
C'est les gendarmes et les voleurs, là, vraiment.
Bon, non, mais là, il n'y a plus aucune tolérance, moyennant quoi? Dans un système sans la moindre tolérance, maintenant, qui devient totalement allergisant pour des bons conducteurs, je parle pas des chauffards, je parle des gens qui n'étaient pas auparavant parmi les contrevenants, eh bien, le résultat, vous venez de le rappeler, il est que depuis 4 ans, on va avoir la quatrième année probablement en 2017 qui va être mauvaise également. Depuis 4 ans, on remonte au lieu de diminuer, c'est-à-dire qu'on a la preuve de l'inefficacité des choix qui ont été faits. Donc il faudrait réorienter plus intelligemment la politique de sécurité routière pour qu'elle devienne acceptable. Et là, on aurait des chances de la faire accepter par les automobilistes. Et on va exactement dans le sens inverse en limitant à 80.
On va faire un petit point Suède, parce que la Suède est un pays vertueux et c'est exactement tout ce que vous venez de nous dire. Et je suis très heureuse qu'on puisse en débattre et converser autour de ce sujet sans s'écharper, parce que c'est vraiment important pour nous tous. N'hésitez pas à nous appeler. On vous attend 32-16.
RMC, 15h-16h, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Vous téléphonez au volant?
Bien évidemment.
Je regarde des messages, mais que au fond.
Vous téléphonez au volant?
Oui, toujours, avec mon kit main libre.
Un simple texto, un simple coup de fil, mais des conséquences parfois dramatiques.
Quand j'ai entendu la notification, j'ai pas pu résister. Le garçon qui traversait, lui non plus, n'a pas résisté. Il est mort sous mes roues.
Pays-Bas, ce sera peut-être bientôt un délit passible d'une peine de prison. En France, c'est encore une simple infraction.
Téléphoner au volant, c'est multiplier par 3 le risque d'accident. Envoyer un SMS multiplie le risque par 23.
Maïtena Birabin.
Alors nous parlons bien entendu de la réforme des amendes et de la sécurité routière. On rappelle qu'on parle de 3477 personnes qui sont mortes sur les routes de France en 2016 et on n'évoque pas le nombre de blessés bien entendu. Nous sommes avec Maître Jeanne Collard qui est avocate spécialisée dans les affaires d'accidents de la route, avec Maître Éric de Caumont, avocat en droit routier et défense des automobilistes. Nous parlions du fait que, et nous étions tous d'accord ici, que la France ne gère pas correctement cette idée de prévention routière et que on met d'un côté la police et de l'autre des éventuels futurs délinquants. Il n'y a pas de cohésion autour d'un projet et on parlait d'autres pays qui eux y arrivent, la Suède par exemple où les limitations sont aujourd'hui jusqu'à 70 à l'heure, mais il y a des endroits où on peut rouler beaucoup plus vite.
Absolument.
Où ils disent qu'ils respectent les règles car ils ont une bonne relation avec l'État, ce que nous venons d'évoquer. Pourquoi est-ce que en France, dès qu'on propose quelque chose, c'est tout de suite liberticide, Maître Caumont.
On va dire, c'est facile, mais que le français est plus gaulois que le suédois.
Mais ça veut dire
il est plus latin et que effectivement,
ça veut dire quoi,
ça veut dire que les latins ont plus de mal, naturellement, à se soumettre à la règle que certains autres pays nordiques.
Mais
ça n'explique pas tout.
Mais je suis d'accord avec vous.
La loi est la même. C'est sociologique, c'est historique.
Mais on n'a pas eu plus envie de tuer les gens que d'autres.
C'est pas une question d'envie de tuer les gens. C'est-à-dire, moi, si je roule à 90 sur route, ce qui est autorisé depuis 45 ans, j'ai pas le sentiment que je cherche à tuer des gens.
Non, mais
je respecte une loi.
Bien entendu.
Si vous le
faites sans votre ceinture de sécurité,
et
en passant un SMS,
toujours ma ceinture de sécurité, je ne téléphone pas au volant et je sais pas envoyer des SMS.
Donc, il faut bien respecter les règles au volant.
Ce que je n'admets pas, c'est ce qu'on est en train de nous faire, là, dans le dos, c'est-à-dire de descendre la vitesse de 90 à 80 km/h, dont on sait que ça ne va quasiment rien changer, sauf que, comme le disait votre auditeur tout à l'heure, puisque la vitesse moyenne sur les routes départementales et nationales est déjà de 84. Ça veut dire que tous ceux qui étaient entre 84 et 80 vont devenir effectivement du gibier à plumer par les radars qu'on va installer.
Juste,
et ça ne va pas vraiment changer la vitesse moyenne sur les routes.
Je reviens sur mon petit point Suède parce que c'est important pour nous tous, pour nous
donner une explication. On a une explication sur la Suède.
Je voudrais quand même le dire. D'abord, sont les inventeurs de la sécurité, de la ceinture de sécurité.
Ouais.
Ensuite, ils stigmatisent. C'est pas qu'ils punissent l'alcool au volant, ils le stigmatisent mais complètement. Mm-hmm. Ils roulent à vitesse réduite et ils donnent des amendes proportionnelles au salaire. Ça veut dire qu'on peut payer jusqu'à 5 000 euros.
Mais parce qu'ils y adhèrent complètement. Le problème français, c'est que effectivement, ça fait des décennies qu'on nous bassine avec des contre-vérités que vous avez l'art d'énoncer d'ailleurs.
Merci.
Bon, voilà.
J'en ai autant pour vous.
Mais peu importe. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de dire, de véhiculer. Oui, on met des radars pour prendre du fric. Non, on met des radars pour sauver des vies. Point barre. Voilà. Il faut qu'il y ait une adhésion et donc une communication différente sur le sujet de la sécurité routière.
Alors qu'est-ce que vous préconisez?
Eh bien, écoutez, déjà, je préconise qu'on refasse ce que Jacques Chirac avait fait, c'est-à-dire qu'il avait mobilisé tous ses préfets qui avaient, au niveau régional, mené des actions de prévention, de sensibilisation.
Ça marche, la prévention et la sensibilisation?
Bien sûr, parce que, si vous voulez, c'est un tout. Imposons à chaque entreprise de faire deux fois par mois ou une fois par mois une journée de sensibilisation en faisant parler des victimes, montrons ce qu'est la route, imposons aux distributeurs de cinéma avant chaque séance de faire passer 0,50 secondes d'un message d'une victime, baignons dans ce qu'est la sécurité routière. Et alors, je vais faire plaisir à Maître de Caumont, et dans 2-3 ans on pourra complètement supprimer les sanctions parce qu'on n'en aura plus besoin, on l'aura gagné
parce qu'on aura réalisé
disait que c'était extrêmement dangereux.
Mais bien
et, que
sûr.
La, et la peur
et le
gendarme.
Téléphone au volant qui va, alors ça, je le pense, être puni tout à l'heure. Alors, je l'espère.
On va le dire, on va le dire. Pour l'instant, la loi qui va passer devrait permettre de sanctionner davantage, mais on évoque, et peut-être ça sera annoncé tout à l'heure, qu'il y a des suspensions de permis quand quelqu'un est pris en train de téléphoner.
L'accidentologie en ville s'est considérablement transformée. C'est-à-dire maintenant,
qui roule sait, non, non, voit quand un
les piétons,
un
les piétons
texto,
meurent beaucoup plus en ville, surtout les enfants d'ailleurs. Pourquoi? Probablement, en grande partie, à cause de l'usage du téléphone au volant. Voilà, donc il faut...
Ça prouve bien que c'est pas la vitesse, on est d'accord.
Je parle de la ville.
Il y a des accidents à cause de la vitesse.
Je
parle de l'accidentologie en
ville. Depuis déjà de nombreuses années, et ça remonte à l'heure actuelle.
Vous voulez remonter en 1840. Soyons sérieux.
On va rester en 2017 et au 32-16 avec Jérôme. Salut Jérôme, ça va?
Bonjour tout le monde.
Bienvenue, vous roulez beaucoup Jérôme, hein?
Oui, moi je roule beaucoup effectivement.
Est-ce que vous respectez toujours tout?
C'est strictement impossible de respecter tout.
C'est-à-dire?
Parce qu'il n'y a aucune visibilité, ce qui fait qu'on ne sait pas si on doit rouler à 60, 70, à 80, à 90.
Ah bon?
Je donnais l'exemple tout à l'heure, moi je roule beaucoup, fréquemment autour de Montpellier, on voit des changements de vitesse, etc. Quelquefois sur 10 km, vous avez 3, 4 changements de vitesse.
Oui.
Vous ne savez pas à quelle vitesse vous devez rouler, donc du coup on ne sait pas. On essaie de faire une vitesse médiane, et au moment où on va passer devant un radar, on se dit tiens, j'espère que j'étais à la bonne vitesse. Mais ça devient n'importe quoi, et effectivement moi je rejoins complètement Maître de Caumont.
Mais Jérôme,
vraiment des vaches à lait.
Jérôme, peut-être, mais vous avez quand même passé le code. Il y a des règles. Il y a quand même, je sais pas, je l'ai pas passé. Alors je vous dis ça, mais on est d'accord.
Oui, il y a les règles dans le code. Mais encore faut-il. Vous savez que pour pouvoir respecter une loi, il faut la comprendre.
Oui.
Bah, et aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Parce que honnêtement, rouler à 80 km/h sur le réseau secondaire, pour moi, c'est quelque chose de vraiment dangereux.
Oui.
Premièrement, je ne pense pas que ça va faire infléchir le nombre de morts, malheureusement.
Oui.
Et je pense que de toute façon, à partir du moment où on part du principe qu'un véhicule est en déplacement, c'est dangereux. On peut se tuer à 50 km/h. Donc à 80 km/h, c'est mortel, de même qu'à 90. Et en cas de choc frontal, que ça soit à 80 ou à 90, ça change rien. Je vais vous dire, les gens qui sont à l'intérieur d'un véhicule endommagé lors d'un accident tel que celui-ci, malheureusement, il reste plus rien d'eux. Donc, c'est pas 80 km/h au lieu de 90 qui vont changer quoi que ce soit. La seule chose que ça va changer, c'est qu'on va se faire ratifier une fois de plus. Voilà. Et on va se servir bien dans les poches, comme il faut. Moi, vous savez, j'en ai marre, parce que je vais vous dire un truc. Moi, je suis artisan.
Oui.
C'est difficile aujourd'hui de gagner sa vie.
Mm-hmm.
C'est très difficile. Je crois que les gens qui font les lois ne se rendent pas bien compte. Et moi, grâce à mon travail, si vous voulez, je fais vivre des gens autour de moi. J'ai des fournisseurs, il y a des associations, je travaille dans le monde du handicap, il y a des associations qui bossent par rapport à mon travail, etc., etc. Et on est sans arrêt stigmatisés aujourd'hui, les gens qui gagnent de l'argent comme ça, les gens qui sont des entrepreneurs, on est vraiment des gens, il faut leur tirer dessus.
J'entends tout à fait.
Si vous voulez, et moi, au moment où je vais dépasser de 3 ou 4 km heure, je vais me faire punir.
Jérôme, allez. Je vous entends parfaitement, on entend la colère, etc. Vous entendez vous aussi, et j'imagine, puisque vous faites 80 000 km par an, vous voyez bien aussi qu'il y a effectivement un relâchement dans l'attitude de ceux que vous croisez sur la route, ou vous le constatez pas du tout?
De plus en plus doucement. Là où il y a du relâchement aujourd'hui, là où il y a un vrai problème, c'est qu'il y a effectivement le problème aujourd'hui des smartphones au volant. Ça, c'est un véritable problème.
On est d'accord, Jérôme, c'est quand même compliqué, ça.
Je suis conducteur de deux roues, donc je me rends compte à certaines fois qu'il y a des gens qui me suivent derrière mon scooter à 4 mètres. Là, moi, je suis rouge de rage. Il y a les problèmes de l'alcool. Moi, je fais 80 000 km par an, je suis contrôlé. Vous savez combien de fois par an?
Non.
Zéro fois.
Parce que vous roulez correctement.
Voilà. Mais
non,
par contre,
pas de contrôle d'alcoolémie.
Au niveau de l'alcoolémie. Par contre, quand vous êtes sur autoroute, merci Maître de Caumont, en plus je vous trouve très sympathique. Quand on roule sur autoroute, systématiquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement des gens qui ne savent pas quitter les autoroutes, on voit des gens qui ne savent pas rentrer sur les autoroutes.
Donc, okay, vous
et
nous
on
dites...
voit 90% des gens qui roulent au milieu de l'autoroute, alors on doit rouler à droite.
Jérôme, je me tourne vers Maître de Caumont. Vous êtes nombreux à nous dire ça. Hein. Vous nous dites, on parle d'un mort sur trois à cause de l'alcool et on régule la vitesse. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport.
La question, elle est... précisément qu'on fait une fixation pour devenir une obsession sur la vitesse depuis des dizaines d'années, c'est pas que le gouvernement actuel, je vous rassure, alors que on sait pertinemment que depuis quelques années, l'alcool est passé en tête des causes de mortalité, et ce que vient de vous dire cette personne est flagrante. Jérôme. C'est-à-dire que ce que vient de dire Jérôme, c'est flagrant. C'est-à-dire que vous passez devant combien de radars par an quand vous faites 80 000 km, vous passez devant des dizaines de milliers de radars. Je parle que des fixes, je parle même pas des contrôles volants des policiers.
Mais ce que j'arrive pas bien à comprendre, bon. c'est ce qu'on va aborder dans un instant.
On s'excite sur la vitesse.
La première cause, c'est l'alcool. Et d'ailleurs, il n'y a jamais une seule cause dans un accident. Voilà. Donc c'est souvent l'alcool.
Donc ça veut dire que c'est peut-être parce que la France est un pays de vignerons et qu'on a très peur électoralement quand on est au pouvoir de se mettre à dos toute une corporation. Mais cet auditeur a parfaitement raison. Moi personnellement, mon dernier contrôle d'alcoolémie, il remonte à 12 ans.
Alors Jérôme,
en 12 ans, j'ai pas vu un contrôle.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16 et d'avoir amené toutes ces questions. On va évidemment en parler. On va parler du fameux éthylotest au démarrage des voitures. À tout de suite sur RMC.
RMC, 15h-16h, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Pour la première fois depuis 45 ans, la vitesse sur route va être abaissée.
Rouler à 80 km/h au lieu de 90 sur certaines nationales ou départementales.
Et la mesure doit entrer en vigueur en principe le 1er juillet.
À titre personnel, j'y suis favorable.
N'importe quoi, ça va rien faire avancer. Il vaudra mieux s'attaquer à l'alcoolémie et aux stupéfiants.
La France rejoindra le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse, qui appliquent déjà cette limitation.
Maïtena Birabin.
J'étais sur la route.
Eh oui, ben on vous souhaite qu'elle soit sereine et surtout safe. Si vous êtes en route, faites attention, levez le pied, soyez prudent, détendez-vous, soufflez. Maître Jeanne Collard est avec moi, ainsi qu'Éric de Caumont, avocat en droit routier et défense des automobilistes. Hors antenne, on convenait tous ici que les contrôles d'alcoolémie n'étaient pas assez fréquents. Maître Jeanne Collard, il en manque?
Oui, mais il manque des contrôles partout.
De tout, de tout, vitesse, oui, hein, mais aussi d'alcoolémie. Est-ce que ça rapporte de l'argent, les contrôles d'alcoolémie, ou est-ce que ça en coûte?
Ça en rapporte autant que les autres contrôles, puisqu'il y a des amendes qui sont payées. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment arrêter de dire que les contrôles sont faits pour que ça rapporte de l'argent.
Non, mais que par ailleurs, ça en rapporte, ça ne me semble pas non plus grossier. Mais
voilà, les contrôles sont... Il y a des lois qui sont faites pour protéger la vie des gens. Les contrôles sont faits pour qu'on respecte la loi.
Absolument,
voilà.
Il y a des amendes qui vont avec.
Et moi, les personnes qui disent que c'est inadmissible qu'on soit sanctionné quand on ne respecte pas la loi, je m'interroge sur leur santé mentale.
Je voudrais qu'on parle des technologies intégrées, parce que c'est vrai qu'on nous dit le téléphone, tout le monde a l'air d'accord, c'est un scandale, mais c'est vrai qu'on met des écrans gigantesques dans les bagnoles maintenant. C'est un peu contre-productif.
Il y a plein de choses qui faudraient
mettre quoi là.
Si vous voulez, par exemple, les GPS qu'on met sur son portable,
c'est terrible, ça aussi.
Mais c'est dramatique. C'est dramatique.
Donc, on regarde l'écran et
puis la route. On regarde l'écran et plus la route. Donc il y a, il y a 10 000 mesures à prendre. Mm. Mais ces 10 000 mesures, d'ailleurs, on peut pas les prendre. Et donc, je pense qu'il faut que ça passe par.
Pourquoi on peut pas les prendre, Maître Collard? Ces mesures?
Pour plusieurs raisons. Je pense qu'on peut pas les prendre, déjà, parce que on peut pas faire une inflation de mesures, parce que comme vous le voyez, quand on en fait quelques-unes, c'est déjà tellement mal vécu.
Alors s'il devrait en prendre, si le Premier ministre ne devait en prendre qu'une, ce serait laquelle pour
alors
vous?
Moi, franchement, je ferais du téléphone portable une circonstance aggravante, de l'homicide involontaire et des coups et blessures involontaires, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Absolument.
Aujourd'hui, on tue votre gamin parce qu'on faisait un SMS, il y aura pas de circonstance aggravante. Donc ça, c'est urgentissime. Je ferais effectivement probablement en cas de récidive une suspension du permis de conduire. Voilà, ça me semble urgentissime.
C'est évoqué.
Après, je pense qu'il y a des mesures aussi urgentes à prendre pour l'accidentologie en ville, puisque on atteint des chiffres maintenant importants en ville, alors que c'était pas le cas avant, et que rappelons-le, c'est nos gamins qui meurent en ville, hein, c'est les jeunes.
Les jeunes.
Voilà.
Maître Caumont, le téléphone portable, c'est le pire ennemi de la sécurité?
Alors, c'est quand même assez intéressant de voir qu'en fait, il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Vous voyez, là, on est en train de vous dire, Madame Collard dit, je ne suis pas du tout opposée à cette idée-là,
oui.
faire du téléphone au volant une circonstance aggravante
oui.
si vous commettez un accident.
Oui.
Et personnellement, je trouve que c'est tout à fait logique.
Oui.
Bon,
suspendre le permis si vous êtes
suspendre le, on enlève déjà des points,
conduire,
hein. On enlève déjà des points pour le téléphone.
Mais
là, on pourrait peut-être en plus suspendre
le permis. Ça me semble bien.
Ça serait logique. Je veux dire, on vous suspend le permis
oui.
pour un excès de vitesse pour lequel on vous enlève 3 points.
Oui.
Bon, ça peut paraître cohérent, bien entendu. Oui. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir effectivement ce que l'on cherche à chasser. C'est-à-dire que vous avez en termes de téléphone une autorisation. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont dit, du moment que vous utilisez votre téléphone avec les deux mains sur le volant, c'est autorisé.
Oui.
Bon, depuis des années. Et puis il y a eu un petit changement avec Monsieur Cazeneuve qui a dit, vous avez plus le droit d'avoir un kit dans les oreilles. Si vous avez le kit piéton sur votre voiture, le kit automatique, vous continuez à avoir le droit de téléphoner.
Oui.
Bon, donc il faut être logique. Soit c'est dangereux et dans ce cas-là, nos gouvernants sont irresponsables à ne pas interdire cela et à continuer à se focaliser sur la vitesse qui leur amène 1 milliard d'euros par an. Soit ce n'est pas dangereux et dans ce cas-là, pourquoi persécuter les automobilistes ? Moi, je vais vous dire, j'ai un avis partagé. C'est-à-dire que je pense que dans des zones comme la ville, où effectivement la tension est primordiale, précisément parce qu'il y a des usagers fragiles, qui sont en danger, les piétons, les cyclistes,
les deux roues
en général. Donc effectivement, dans ces endroits-là, la moindre seconde, le moindre dixième d'inattention
oui,
peut effectivement être grave et fatale.
Oui.
Bien, maintenant je vais, et ça va être, je pense, volontairement provocateur, vous dire une chose. Quand je suis sur une autoroute française à 130 km/h, je téléphone. Parce que ça m'empêche de finir par somnoler. C'est la première cause d'accident mortel sur autoroute.
Mais arrêtez-vous.
Mais non, parce qu'à 130, je m'endors.
Vous êtes
ne m'arrête pas parce que à 130 km/h, déjà, ça va pas assez
mais
vite.
Je comprends pas comment vous pouvez dire des choses pareilles.
Parce que je suis né allemand. Et que les Allemands, ils roulent à 200 sur les autoroutes en toute impunité parce que c'est la
mais
loi.
Mais pas quand ils sont fatigués.
Ils respectent la loi.
Mais attendez.
Non, vous confondez fatigue et somnolence, Madame Birven. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les sociétés d'autoroutes et les gendarmeries d'autoroutes vous disent que depuis des années, ce qui tue sur autoroute, c'est pas la vitesse, c'est la somnolence. Et pourquoi on somnole? Il y a eu un excellent essai qui a été fait par un journaliste d'AutoPlus il y a au moins 15 ans de ça. Il a fait Paris-Lyon en oui. respectant scrupuleusement la limitation de vitesse
oui.
et il n'était pas fatigué, il était en pleine forme, il avait pris son
c'est
petit café avant
de partir.
C'est la
loi qui l'a fait somnoler.
Bon, non, c'est juste le fait que quand vous restez pendant 4 heures
oui.
à 130 km/h,
oui.
il avait plein de capteurs sur lui, il y avait des médecins avec lui.
Vous êtes censé faire des pauses, vous le savez ça.
Vous faites une pause toutes les 2 heures,
ouais.
puisque c'est prévu là aussi.
Ouais.
Et malgré une pause toutes les 2 heures, il faut bien faire le plein de l'essence de
ouais.
toute façon. Il avait eu sur 4 heures de trajet Paris-Lyon, en respectant la limitation à 130, 8 minutes de sommeil.
Ouais.
Voilà, 8 minutes de sommeil. Pas d'un seul coup, évidemment, ça n'aurait pas été beaucoup
qu'il
plus loin.
Eu même à,
donc ça veut dire en clair
vitesse,
que...
Oui.
Donc quand vous nous dites que les maladies de vitesse...
Je vous dis et je ouais. maintiens et je l'affirme que
n'importe
quand on est en train de rouler à 130 sur une autoroute déserte et parfaitement bien fichue, là où en Allemagne on roulera à 150, 180 ou 200, et où on serait vigilant parce qu'on serait concentré sur sa conduite, eh bien à cette vitesse-là, le téléphone, ça vous aide à rester concentré, et ça, c'est facile à démontrer
juste,
médicalement.
Juste une chose, on ne somnole pas à 190.
Je peux vous le confirmer, j'ai vérifié sur autoroute allemande. À 190, on ne somnole pas.
À partir de combien on somnole plus? Dites-nous, parce qu'on ne peut pas savoir.
Il faudrait au moins prévoir du 150, 160
alors,
sur les autoroutes françaises.
À Edouard Philippe.
On peut toujours lui proposer, chiche, hein, 80 sur les routes, 160 sur les autoroutes. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il ne va pas nous suivre. Rapport à Bercy. Rapport à ce que rapportent les autoroutes sur les radars sur les autoroutes. Mais je suis peut-être mauvaise langue. Peut-être qu'il y a l'heure qu'il est en train de nous écouter et qu'il va dire banco, je suis le comment. On diminue d'un côté, on monte de l'autre. Les autoroutes françaises, on situe extrêmement peu. C'est les accidents dus à la vitesse, attribués à la vitesse, au non-respect des 130 sur autoroute, ok, ne représentent même pas 1% des morts sur les routes françaises. Ils représentent de l'ordre de 20 à 25 morts par an. Il n'y a même pas un mort par autoroute en France par an attribué à la vitesse, ça veut tout dire sur la nécessité des radars et de la limitation.
Comme on est à la radio, je signale que Maître Collard est effondré en vous entendant dire ça.
Je suis ravi de savoir
qu'il va partir vivre en Allemagne. Ça va préserver quelques victimes en France.
Peut-être que j'irai prendre ma retraite au pays de la liberté.
Je vous précise tout de suite qu'ils vont très très bien. Quand même,
ils sont en pleine forme depuis 40 ans qu'ils n'ont pas de limitation.
Il y a beaucoup d'autoroutes en Allemagne où vous roulez à 110. Bon, voilà. Il faudrait que vous y retourniez pour voir un peu comment ça se passe.
Maître de Comont, par ailleurs, c'est un peuple extrêmement discipliné.
Exactement. et vous savez
les règles et qui respectent la loi.
Et vous savez que quand, et je suis totalement d'accord avec vous, Mme Mirabel, parce que on les voit rouler, ils respectent la réglementation. Donc quand ils sont en ville, ils sont à 50.
C'est ça.
Quand ils sont sur les routes nationales, ils sont pas à 90, ils sont pas à 80, ils sont à 100.
Ouais.
Bah oui, parce que c'est 100 en Allemagne. Et quand ils sont sur autoroute, soit c'est une portion dangereuse et limitée, et ils sont à la vitesse autorisée.
Mais le truc, c'est qu'on
quand
va
c'est
rester
libre, ils roulent. Mais parce que on n'est pas obligé d'être plus bête que les Allemands.
Et on n'est pas obligé d'être allemand non plus.
Non, effectivement,
Nicolas
je vous rassure.
Est au 32-16 avec nous. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Merci d'avoir attendu. Vous nous dites, vous aussi, que c'est pas la vitesse le sujet et que bientôt on va rouler à zéro à l'heure, donc on roulera plus, hein. Mais que par contre, le respect des règles, ça compte.
Bah, moi, je dis effectivement que je reconnais l'efficacité de la mesure de la baisse de la vitesse.
Oui.
Tant et si bien que pourquoi s'arrêter à 80? Pourquoi pas sur les nationales à 40 et puis les autoroutes à 70? Ça sera encore plus efficace.
Et il y aura moins de morts.
Il y aura plus de morts. C'est ridicule. En fait, le problème, c'est pas de baisser la vitesse, puisqu'il n'y a pas de limite à cette solution. On va finir à zéro pour qu'il n'y ait plus de morts sur les routes.
Ouais.
En fait, le ridicule, c'est de mettre toujours des règles sur des règles sur des règles. Il faut accepter qu'il y a un caractère accidentogène quand on prend une voiture et qu'on roule. Et bah oui, il y a
on l'accepte,
accidents.
Nicolas, tant qu'on n'est pas concerné.
Mais celui qui est concerné, c'est le mieux placé pour juger de la situation.
Bah, quand on est mort.
C'est justement celui qui n'est pas concerné qui est mieux placé pour juger.
Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez, Nicolas?
Bah, moi, je préconise qu'effectivement, il y ait des règles qui soient plus souples sur la vitesse, parce qu'effectivement, rouler à 70 sur l'autoroute, ce n'est pas la solution. Qu'on ait des autoroutes qui soient avec des vraies limitations bien pensées, qui aient du contrôle, parce que le problème, c'est pas celui qui respecte les limitations, c'est celui qui ne les respecte pas.
On est d'accord.
Celui qui est aujourd'hui à 90 sur la nationale et qui roule à 140, demain, vous allez mettre la 80 à la limitation, il roulera toujours à 140.
Oui.
Il va pas rouler à 130 km/h.
Vous avez raison, donc du contrôle.
Donc le problème, c'est pas les limitations. Le problème, c'est le respect des limitations.
Oui.
Et il faut pas sanctionner ceux qui les respectent, justement. Et en diminuant les limitations, en fait, on sanctionne ceux qui respectent les limitations. Parce que ceux qui ne les respectaient pas étaient déjà sanctionnés. Donc, complètement inefficace.
Alors, Maître Jeanne Collard est tout à fait d'accord avec vous.
Oui, bien sûr, je pense que il faut faire respecter les limitations actuelles. On sait que les accidents surviennent parce que ces limitations ne sont pas respectées. Et diminuer une vitesse servira ponctuellement pendant un mois ou deux. Il y aura l'effet d'annonce et les chiffres repartiront. Donc, je partage, mais vraiment tout à fait votre sentiment. Monsieur, je voudrais que la France entière le partage.
Chez les maîtres de Comont.
Une petite précision, ce qui m'est fait penser, c'est ce que vient de nous dire Nicolas. Vous savez que ça fait 15 ans, vous parliez de Chirac tout à l'heure, et il y a eu effectivement un effet formidable quand Jacques Chirac a dit « c'est une grande cause nationale ». Vous savez de combien les morts ont baissé en 2002, c'est-à-dire avant l'arrivée du premier radar automatique et après l'annonce choc de Jacques Chirac. Moins 20% de morts sur les routes françaises. On n'a jamais vu ça.
On se souvient bien de la réaction des Français. Hein. Ils étaient hallucinés.
C'était trois grandes causes nationales, les handicapés, la sécurité routière, et il y avait encore un troisième élément que j'ai oublié. Donc, c'est très important de provoquer effectivement une adhésion populaire. Maintenant, en 2002, écoutez-moi bien, tout le monde, c'est-à-dire les associations de défense de victimes, et les associations de défense d'automobilistes et toute autre personne intéressée, bien entendu, mais les opposés hein, habituels, on était tous d'accord pour une chose, la création d'une police de la route, une vraie police de la route qui est sur la route, qui y reste, qui y roule et qui constate autre chose que les dépassements de vitesse avec des voitures radar automatiques, mais qui constate les comportements dangereux des gens qui conduisent mal.
Okay,
ça fait 15 ans que tout le monde est d'accord au niveau des associatifs.
Et ça ne se passe pas.
Ça ne se passe pas, ça ne s'est jamais passé, ils ne veulent pas le faire.
Ça coûte trop cher, parce que les radars.
Ça coûte trop cher.
Parce que les radars ne rapportent pas assez.
Les radars rapportent beaucoup de fric et une vraie police de la route et la sécurité routière.
C'était une provocation, vous êtes tombé dedans.
Ben oui, mais
chez les jeunes, un petit mot, parce que c'est quand même très important. La première cause d'accident, ça reste aussi l'inexpérience chez les jeunes. Il est envisagé peut-être de rallonger d'un an le permis probatoire, donc 4 ans pour obtenir les 12 points.
Moi, je vais vous dire, je pense que le problème des jeunes, c'est un problème d'argent, qu'il y a une crise économique en France, qu'il y a beaucoup de foyers où les jeunes n'ont pas les moyens de se payer 30, 40 heures, 50 heures de leçon de conduite.
C'est
et ça
cher.
Fait 10 ans que je crie qu'on doit créer des bourses pour les foyers défavorisés. Voilà.
Pour apprendre à conduire correctement, en prenant le nombre de leçons
exactement
suffisantes.
Exactement, pour
d'accord.
viser une meilleure formation. Et n'oublions pas, quand on débat, en riant ou n'en riant pas, que derrière ces chiffres se cachent des drames épouvantables. Ça, il faut jamais l'oublier.
Un dernier mot, repasser le permis tous les 5 ans, ça vous semble une bonne...
Alors, je pense qu'il faudrait des contrôles médicaux, parce que moi, j'ai énormément de dossiers où des gens malades ont causé des accidents, et je pense qu'il faudrait l'obligation pour le médecin traitant de signaler à la commission préfectorale du permis de conduire s'il y a une pathologie dangereuse, afin que le permis soit suspendu temporairement s'il le faut.
Voilà. Maître de comment, je vous entends, d'accord.
J'acquiesce, on est d'accord sur beaucoup de choses, pourtant on n'est pas du même côté du radar, c'est le moins qu'on puisse dire. On est d'accord sur beaucoup de choses, et vous avez remarqué tout ce que propose Madame Collard, tout ce dont je propose, tout ce que je propose.
Oui.
C'est de la sécurité routière différente, c'est arrêter de se focaliser sur la vitesse, et ça a une différence fondamentale aussi. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et les radars, ça rapporte de l'argent. Donc en fait, si on veut vraiment se donner les moyens d'économiser les vies humaines, les drames qu'il y a tous les jours sur les routes, il faut investir dans des mesures courageuses et coûteuses. Et à partir de ce moment-là, on aura du résultat, comme le font les Anglais depuis très longtemps. Sauf qu'en France, encore une fois, on se fout de savoir ce qu'on va avoir comme résultat. On s'intéresse au fait de faire marcher le tiroir caisse plutôt que de créer une police de la route, de vérifier le permis, de donner une bourse pour passer le permis, y compris dans les pays défavorisés.
Une éducation au sein des lycées, ça serait le bienvenu.
Ah, c'est fondamental. C'est fondamental. Et ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est totalement inefficace. Alors déjà, moi, je pense que c'est pas au niveau des lycées qu'il faut commencer, mais c'est au niveau de la primaire.
Oui. Les enfants sont très malléables.
Bien sûr. Oui, mais surtout aussi parce que les enfants peuvent former les parents.
C'est ce qui existe.
Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait papa va plus doucement à l'école.
Ceinture,
on m'a dit que voilà.
Dis pas connard.
Ne bois pas.
Voilà. Et donc, je pense qu'il faut commencer. À la primaire.
Vous êtes aussi d'accord là-dessus, Eric?
Je pense que la formation, et encore une fois, on en revient toujours à la même chose, la formation, l'éducation, l'amélioration du réseau routier, l'amélioration de la sécurité des véhicules. Vous voyez, un exemple, il y a des tas d'options qui coûtent cher pour améliorer la sécurité, que ça soit dans les voitures ou que ça soit en termes pour les deux roues, qui sont également une population très fragile. Je sais ce que je sais, de quoi je parle, je suis motard.
Moi aussi.
Et il y a un certain nombre d'équipements qui coûtent très cher et qui sur lesquels non seulement il n'y a aucune aide, mais sur lesquels l'État, tel le Proxénète, se sert à hauteur de 20% de TVA, alors qu'il s'agit de sauver des vies en cas d'accident. Eh bien, effectivement, tout ça, ce sont des vraies pistes de recherche que les pays qui ont les meilleurs résultats que nous ont déjà explorés depuis des années, je pense à la Grande-Bretagne, et que l'on refuse d'explorer parce qu'il y a l'arbre de la vitesse qui cache la forêt des vraies solutions.
Merci beaucoup à vous deux. On a réussi à vous entendre d'accord et ça m'a fait bien plaisir, Maître Collard, Maître de Gaumont.
Je ne regrette pas d'être venu.
J'espère
je vous ai fait plaisir, c'est une véritable joie pour moi.
Et on était heureuse de vous recevoir. Un aventurier maintenant qui a les pieds sur terre mais la tête ailleurs, je crois. Christophe Cousin, tout de suite sur RMC.
RMC, M comme Maïtena.
Bonjour, bienvenue au Maroc. Je suis dans l'Atlas marocain à 2200 mètres d'altitude.
La caravane m'impressionne. Il y a plus de 150 chameaux. Comme je ne parle pas tamashek, mon voyage en est d'autant plus intérieur.
Au Kyrgyzstan, les nomades possédant le plus de bêtes sont de vrais notables.
Et moi, en fait, je cherche des hobos. Ils voyagent de manière clandestine à bord des trains. Là, je vais essayer de retrouver des Irish Travelers qui voyagent encore avec sa carriole et ses chevaux.
1000 yaks, 2500 moutons et chèvres. On est à 4700 mètres d'altitude.
Ça peut paraître les vacances, mais c'est pas du tout les vacances, quoi.
Maïté Nabirabin.
La musique de l'aventure. Vous l'entendez, cette belle musique? C'est l'aventurier qui est rentré dans le studio de RMC. Salut à toi, Christophe Cousin.
Salut, Maïtena.
On se connaît bien parce qu'on a été explorateurs, toi et moi, sur Canal+. Et j'ai voulu t'inviter parce que, évidemment, sort en poche chez Arto Poche sur la route des Utopies. C'était l'occasion de te recevoir. Tu as toujours été pour moi un garçon saisissant parce que tu n'es pas hors sol, tu n'es pas perché, mais en même temps, tu es infiniment poétique. Alors, je vais vous expliquer, vous qui connaissez peut-être pas Christophe. Christophe, il dit, par exemple, il arrive quelque part et il dit « Du pain et de l'eau, un accueil qui dépasse l'espérance ». Personne ne dit ça, Christophe.
C'est mon côté fils de paysan rêveur, je pense. Ça doit
c'est
venir
ça.
De là,
hein,
à mon avis. Ouais. Non, je sais pas. Je me dis que j'ai peut-être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais, c'est peut-être ce qui me caractérise le plus. J'essaie de rester attaché à cette image-là, en tout cas.
Ouais. Alors la première phrase de ta bio sur ton site, c'est écrivain, voyageur et réalisateur. Christophe Cousin a décidé de consacrer sa vie à l'aventure, à l'écriture, à l'image et au voyage. Honnêtement, Christophe, si un enfant dit une chose comme ça, on s'inquiète.
Bah c'est ma mère s'est beaucoup inquiétée, hein.
C'est
je
ça.
Te le dis tout de suite.
Mais elle a eu peur.
Très très sérieusement. Bah tu sais, quand à 4 ans tu prends ta petite valise et que tu pars sur la route et que tu fuites littéralement de chez toi,
ouais,
avec quelques images et quelques coquillages, et que tu dis bon bah voilà, je vais voir un peu plus loin ce qui se passe, et que ta grand-mère t'arrête en cours de route à 600 mètres de là et qu'elle appelle ta mère en disant elle a tenté le diable, ça présumait déjà un petit peu d'une personnalité un peu à part, quoi. Et plus tard, très vite, à 10 ans, j'ai eu envie de partir un jour en tour du monde en vélo. Et à 20, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse parce que à 40, je le regretterai. Aujourd'hui, j'en ai 42 et je regrette que le temps file trop vite.
C'est ça. Il y a toujours 1000 voyages à faire.
Il y a toujours 1000 voyages à faire et quand on en a fini un, on a envie de repartir parce que tu vois, je suis parti il y a 15 ans sur les routes du monde en vélo et il y a des pays comme la Syrie qui ont terriblement changé depuis que j'y suis allé. T'as envie de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, t'as envie de te confronter à cette réalité-là, quoi, c'est certain.
C'est marrant que tu dis ça. Le tour du monde à vélo, c'était 30 000 km, c'est ça?
Ouais, 30 000 km.
30 000 km et tu as également couvert les États-Unis et j'allais te demander exactement ce que tu es en train de dire. Tu as fait le tour des États-Unis, mais les États-Unis, ils ont changé énormément. Et on a envie de refaire des voyages pour revoir l'évolution du monde.
Sur les États-Unis en particulier, je les ai traversés, je crois, 4 ou 5 fois, du nord au sud, d'est en ouest, d'ouest en est. C'est un pays-continent fascinant qui change en permanence.
Oui.
En fonction des gens que tu mets sur ta route, en plus, ton voyage n'a strictement rien à voir avec le précédent. Donc c'est ça qui est absolument saisissant en voyage, c'est cette capacité de la destination elle-même a changé, quoi, dans le temps.
Alors, tu n'as pas commencé tout de suite comme ça, même si tout petit tu fuguais déjà, tu as commencé ta vie comme nous tous, hein, tu as fait des études de commerce international, tu t'es occupé un poste de responsable commercial dans une start-up parisienne.
Ça
n'a
pas duré longtemps, mais oui.
C'était pas bien ?
Si, c'était super, mais j'avais peur, si tu veux, à 25 ans que ma vie soit celle-là pendant les 20-30 prochaines années. Mais c'est super, hein.
On se met tous dans les rails d'une vie, machin, etc. Et puis certains se disent, ah non, j'en sors. Qu'est-ce qui fait que certains, tu fais partie de ceux-là, disent, non, moi, je veux pas de cette vie-là, je sors. Parce qu'on a tous, on se dit tous, oh là là, moi, je vais aller vivre 6 mois ici, puis 6 mois là-bas, enfin, à un moment ou un autre.
Je sais pas, j'étais libre d'engagement au moment où je suis parti, j'ai saisi une opportunité qui était celle de l'appel du large, j'ai eu envie de me confronter à mes propres rêves, c'est des phrases toutes faites, mais c'est vrai que c'était plus fort que moi, quoi, il fallait que je le fasse. Je pense qu'à un moment donné, c'était vraiment une question de vie ou de mort, c'est-à-dire que ma vie à Paris me pesait, j'étais confronté, en fait... La société me renvoyait le miroir de moi-même. Mmh. Et il fallait que je parte pour me confronter à mon autre moi qui était celui des grands espaces, ce fils de paysan qui jouait dans les ruisseaux, qui rêvait d'ailleurs. Tu sais, quand t'as grandi sur une ferme, alors je vais pas faire Cosette, mais c'était une ferme isolée, loin du monde, dans le village, c'est pas une caricature, mais avec mon frère, on était les deux seuls jeunes du village. À un moment donné, cette frustration, elle te donne envie d'aller voir ailleurs. Elle te donne envie d'aller au-delà des limites, au-delà de l'horizon pour voir ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé dans mon... À un moment donné, je me suis dit, je pars.
Alors, il y a eu ce tour du monde à vélo, il y a eu la route des utopies avec, je le redis, ce livre qui paraît en poche sur la route des utopies, la rencontre des sociétés qui rêvent, puis les explorateurs de canal sur la piste des nomades et des marginaux. Comment viennent les idées de voyage? Et d'abord, peut-être pour expliquer, tu renonces au confort, hein, tu dors par terre, tu manges des branches, tu t'en fiches un peu, quoi. Enfin, c'est route quand même.
C'est route, c'est en même temps, c'est le lot de 90% des gens sur cette planète. Donc après, faut relativiser. On est dans une société, on vit avec plus que nécessaire. Et tu l'as expérimenté comme moi. Quand t'es en voyage, à un moment donné, t'as envie de te confronter à la réalité des autres. Alors moi, j'ai pas envie de faire papou jusqu'à la fin de mes jours. Hein, tu vois, je goûte cet ailleurs. Je suis content de rentrer aussi. Mais c'est vrai que quand je suis sur place,
chez toi, il y a un lit avec un matelas, quoi, l'eau chaude.
Ouais, alors ça, c'est très récent. Jusqu'à pas il y a pas longtemps, jusqu'à ce que je rencontre ma femme, en fait.
Oui.
Tu vois, j'ai acheté un matelas le
Parce
jour
que tu dormais
où
avant?
Pas par terre.
Ah oui, quand même, il y a un peu perché quand même.
Mais je vivais avec mon sac à dos, quoi.
D'accord. Tu gagnes de l'argent? Tu gagnes bien ta vie?
Il faut reconnaître, alors il y a eu la phase tour du monde en vélo qui a fait que je lâchais tout et c'était cette espèce d'inconnu où je savais pas ce à quoi j'allais m'attendre. Il y a eu la phase au retour du voyage, qu'est-ce que je fais?
Oui.
L'occasion de passer face caméra, c'est-à-dire d'un seul coup tu te retrouves au bon endroit, bon moment, on monte une émission qui s'appelle Nos Explorateurs sur Canal, et là ça a été super, ouais, parce que j'étais payé pour voyager, donc.
Mais c'est la même chose de voyager avec une caméra et de voyager sans caméra? On fait le même voyage?
Non, Et moi, je dois avouer qu'après 2 ans et demi de solitude sur un vélo, j'étais super content de pouvoir partir avec une caméra.
Ouais.
Parce que je partais avec un but, avec un objectif à atteindre. Et il y avait le confort d'avoir un traducteur avec moi.
Et puis une histoire à raconter. Tu es quelqu'un qui raconte les histoires. La plus folle rencontre dans tes voyages?
Probablement 130 millionnaires chinois sur la banquise en direction du pôle Nord qui s'offrent un voyage à 25 000 euros par tête de pipe
sur un brise-glace. C'est
sur
extraordinaire.
C'est dingue, quoi, de se dire je m'offre le luxe de l'inutile, quoi.
Ouais.
Et ça m'a renvoyé tout le réchauffement climatique à la gueule, cette société de consommation qui n'a plus faim, et en même temps pourquoi leur jeter la pierre, j'étais là avec eux et je documentais ce voyage, quoi.
Le voyage le plus dur?
La mer, au large de l'Afrique du Sud, sur un bateau, par 16 mètres de creux, 90 nœuds de vent, c'est des souvenirs de... Là, tu vois la mort en face, quoi. Tu te dis, waouh. Et tu parles d'aventure, il faut relativiser. Moi, tu vois, je prends mon vélo, à un moment donné, je pars. J'enchaîne juste les journées, les unes après les autres. Mais les marins, les gens qui vont dans l'espace, c'est ça pour moi la vraie aventure.
Mmh. Ton plus beau souvenir?
Le désert, la caravane de sel. Ce sentiment d'être seul au monde et en même temps en communion avec une poignée d'hommes qui va vers un objectif commun, à savoir une saline pour chercher du sel avec des chameaux, quoi.
Ouais.
La vie à l'état brut, c'est-à-dire Homo sapiens, l'homme fait pour parler et marcher, c'est ce qu'on a fait pendant un mois.
Est-ce qu'on peut tous faire ce que tu fais? Est-ce qu'on est tous faits pour ça?
Alors tous faits pour ça, je sais pas. Charge à chacun de se poser la question. Est-ce qu'on peut tous le faire? Je pense que oui. Je mets des bémols parce que souvent quand je dis ça, on me dit ouais non mais attends, 2 ans et demi sur un vélo, faut se le faire. Mais non, enfin 2 ans et demi sur un vélo ou 15 jours sur un vélo, c'est la même chose. 2 ans et demi, c'est juste 15 jours et 15 jours qui succèdent, quoi.
Pour Maria, que la publication de ce livre en 2007 m'a permis de rencontrer et qui est devenue ma femme, c'est l'exergue du livre. Ça y est, t'es mariée, t'es un gros bourgeois. Ça y est, c'est fini.
Je suis marié, gros bourgeois, je sais pas. Non, c'est une nouvelle forme d'aventure.
Hein?
Ça, c'est quand même merveilleux, quoi. Pouvoir partager sa route, mais à deux. Alors, je l'emmène pas toujours en voyage, mais c'est l'occasion de partager. Et c'était un petit peu aussi le questionnement de ce voyage sur la route des utopies, de se dire comment est-ce qu'on fait pour vivre heureux ensemble. C'était un petit peu ça le postulat de départ de ce livre.
RMC.
Je t'aime.
J'aime.
J'aime pas trop beaucoup ça.
J'aime pas.
Trois petites questions d'actu à toi, Christophe Cousin. Tu vas me dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Ce soir, à l'état sauvage, avec Mike Horn, avec Adriana Carambe. C'était hier soir, pardon, sur M6. Tu regardes ça?
Je regarde
sauvage.
Pas, mais j'imagine que c'est le moyen de voyager par procuration.
Ouais. Bah, c'est Mike Horn qui fait vivre l'aventure à une invitée. Là, c'était Adriana Carambe. Tu vois qui c'est, Mike Horn?
Ouais, très
T'as
bien.
La télévision?
J'ai la télévision, mais je t'avoue que je n'ai jamais regardé cette émission. Quoi.
Ok. J'aime pas. 80% des Français qui croient au moins à une théorie du complot.
J'aime pas.
Bon,
je trouve ça... chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça me fait doucement rire. Si vous pensez que la Terre est plate, prenez un vélo, quoi.
J'aime pas. Un collectif de femmes qui rejettent le puritanisme et la haine des hommes dans le monde.
Non, j'aime pas. Je suis profondément féministe, mais dans l'âme. Mais non, je suis pour un juste équilibre des choses.
C'est ce qu'elles disent, elles sont un petit peu contre le hashtag #MeToo. Voilà, elles trouvent que ça va un peu loin.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Ok. Non, mais je respecte ceci étant chacun son truc.
Allez, chacun son truc. Sur la route des utopies, c'est signé donc en poche chez Artaud. Et si vous voulez rêver et que vous voulez avoir le courage de prendre votre mie en main et d'y aller, larguez les amarres. C'est la classe. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, Vincent? Tu partirais où, toi?
Voilà, je sais pas où je partirais, mais 2 ans et demi sur un vélo,
ouais.
Christophe, la peau de chameau, faut qu'elle soit épaisse,
ouais.
Parce que t'as dû quand même avoir mort au fion, hein, quand même. Hein. Ça a dû brûler.
J'en avais pas.
T'en avais pas?
Et non.
Oh, mais t'es un phénomène.
Non, mais on veut pas se faire l'image, on ne veut pas.
T'as dû rentrer avec les joues rouges, hein, je te le dis. Alors, Maïtena, écoute-moi, ma petite poulette, on va parler des quarts de finale. Des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Parce que le foot, alors ça va être énorme, essaye la vidéo pour la première fois.
Oh là là.
Alors c'est pas savoir si ça va marcher la vidéo, c'est savoir s'ils vont réussir à faire marcher le magnétoscope. Parce qu'il faut bien savoir qu'au foot, même sur un but ou un hors-jeu, même le concierge donne son avis.
Alors,
ça va être compliqué. On va regarder ça, bien entendu, là, le super Moscato Show. On va disséquer l'affaire, bien entendu.
Disséquons, mon ami. C'est tout de suite dans le super Moscato Show. Je t'en t'embrasse Vincent, merci infiniment Christophe d'avoir été avec nous.
Merci,
on va
Maïtena.
Se retrouver demain à 15h sur RMC, on va rêver à d'autres saisons, on va quitter ces murs de prison, eh oui, on va s'aimer.
RMC 15h-16h, M comme Maïtena.